La Société des Compagnons pour l'Évangile présente la Confession de foi de La Rochelle par le pasteur Pierre Courtial, cours pour laïcs donné par le Centre de formation chrétienne à la Faculté de théologie protestante de Paris.
Nous croyons que les sacrements sont ajoutés à la parole pour nous la confirmer plus amplement afin de nous servir de garde et de preuve de la grâce de Dieu, de sorte qu'à cause de notre faiblesse et de notre ignorance, il concourt à soulager et à aider notre foi. Nous croyons que les sacrements sont des signes extérieurs au moyen desquels Dieu agit par la puissance de son esprit, afin de ne nous y rien représenter en vain. Nous sommes toutefois persuadés que toute la substance et la réalité des sacrements est en Jésus-Christ et que, si on les en sépare, ils ne sont plus qu'illusion et fumée. Cet article 34, il suffit de le lire, me semble-t-il, pour s'en rendre compte, est un article extrêmement dense. Un article où chaque mot a son poids. Et on dirait que dans ces quelques lignes, les auteurs, les rédacteurs de la Confession de foi ont condensé tout un enseignement. Si bien que nous ne pourrons pas, nous n'aurons ni le temps, ni les moyens de vraiment scruter dans tous ces détails cet article dont je répète qu'il est très dense. D'abord, il établit un lien entre les sacrements et la parole d'une part, et les sacrements et Jésus-Christ d'autre part. D'abord, les sacrements ont par rapport à la parole un triple rôle. D'abord, il la confirme plus amplement. C'est sur le mot amplement que je m'arrêterai dans un instant. Ensuite, ils nous servent de gage et de preuve de la grâce de Dieu. Et enfin, ils concourent à soulager et à aider notre foi. D'abord, dans ce rapport donc que nous voyons en premier lieu entre les sacrements et la parole, les sacrements sont une confirmation ample de la parole. Je pense que il faut nous arrêter sur cet adverbe amplement. C'est-à-dire que les sacrements apportent à la parole, ajoutent à la parole une ampleur par ce seul fait qu'ils sont parole visible, qu'il nous parle d'une manière particulièrement concrète, tandis que la parole s'adresse, quand nous la lisons, à nos yeux, bien sûr, mais s'adresse essentiellement à la parole s'adresse essentiellement à notre oreille et à notre intelligence. Les sacrements s'adressent d'abord à notre vue. Et c'est pourquoi il est certain, nous le dirons d'ailleurs tout à l'heure à propos de la Sainte Cène, comme à propos du baptême, il y a une symbolique des sacrements, il y a des gestes qui ont leur sens, à propos du sacrement, Et le sacrement n'est pas seulement constitué extérieurement par la matière de l'eau dans le baptême, du pain et du vin dans la Sainte Cène, mais aussi par les gestes de celui qui célèbre le baptême ou la Sainte Cène. Nous verrons par exemple que dans le sacrement de la Sainte Cène, la fraction du pain a son sens et que le pasteur, l'officiant, quand il célèbre la Sainte Cène, doit, par les gestes mêmes, accompagner le sacrement. Ou plutôt, les gestes qu'il fait font partie, eux aussi, du sacrement. Donc, l'ampleur que les sacrements ajoutent à la parole, c'est qu'ils la visibilisent, ils la manifestent extérieurement. Ils font comme toucher la réalité qu'annonce la parole. Par exemple, il est bien sûr que les récits concernant le sacrifice du Christ, tant les récits de l'histoire de son sacrifice que ce que nous disent les apôtres de la portée du sacrifice de Jésus-Christ, ont leur rôle essentiel. Mais il y a dans la célébration eucharistique, dans la célébration de la Sainte Cène, il y a comme une visibilisation. Et ça, c'est ce que les sacrements ajoutent à la parole. La parole ne se voit pas. Bien sûr, la parole faite chair en Jésus-Christ se voyait, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, écrit saint Jean. Mais maintenant que notre Seigneur Jésus-Christ est au ciel, la parole ne se voit pas. Et c'est pourquoi le sacrement ajoute à la parole par le fait qu'il est visible et qu'il est constitué non seulement, je le répète, d'une matière visible, mais de gestes visibles. Et c'est là le premier point. Le deuxième point, c'est que les sacrements sont des gages et des preuves ajoutées à la parole. L'enseignement réformé, non pas ici précisément dans la confession de foi ici, mais nous le verrons tout à l'heure, cela nous est dit cependant plus tard à propos du baptême, il y a un mot qui est employé, c'est le mot « sceau ». Vous savez qu'un sceau, c'est ce qui authentifie, c'est ce qui authentifie, c'est ce qui est comme un gage et comme une preuve. Prenons un exemple très simple. Eh bien, nous savons qu'il y a une marque sur un objet en or pour authentifier que cet objet est bien en or. Bien sûr, la marque n'ajoute rien en un certain sens. Et cependant, elle ajoute par le simple fait qu'elle authentifie. L'or est de l'or, même s'il n'y a pas la marque. Mais quand il y a la marque, nous sommes bien persuadés que c'est de l'or. De même, je dirais, il n'y a pas de doute que la signature que nous apposons sous un document vient authentifier et comme sceller ce que nous écrivons dans le document, ce qui est inscrit dans ce document. Et il est sûr que par les sacrements, Dieu veut authentifier sa parole pour notre foi. La parole de Dieu est suffisante, mais il nous est bon qu'elle nous soit scellée. Le pardon de Dieu, il est bon qu'il nous soit scellé, qu'il soit authentifié pour nous, qu'il y ait comme la marque et le signe et le sceau de ce que la parole dit. Et c'est pourquoi les sacrements servent de gage et de preuve. Et en troisième lieu, il est bien certain que dans notre faiblesse et dans notre ignorance, nous avons besoin de béquilles, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin d'appui. Et les sacrements viennent au secours de notre faiblesse et de notre ignorance. Bien sûr, quand je crois en Jésus-Christ, je suis en communion avec Jésus-Christ. Il n'est pas nécessaire d'une manière absolue et idéale que le sacrement de la communion soit donné aux hommes, mais étant donné notre faiblesse et notre ignorance, il est bon que Dieu nous donne avec le pain et le vin de l'Eucharistie les signes, les gages et les preuves de notre communion avec son Fils Jésus-Christ. Et c'est pourquoi les sacrements sont une aide et qu'il y a pour l'homme chrétien quelque orgueil à vouloir se passer du sacrement. Parce qu'au fond, celui qui dit « je n'ai pas besoin d'aller à la table sainte car je suis par la foi en communion avec Jésus-Christ », il veut en quelque sorte se faire plus sage que la sagesse de Dieu. Et il y a quelque orgueil à vouloir se passer de ce que Dieu a voulu. Dieu connaît notre faiblesse, Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin, et Dieu a jugé bon d'ajouter les sacrements à sa parole à cause même de cette faiblesse et de notre ignorance, dont, je dirais, les plus savants ou les plus forts doivent avoir l'humilité de se croire eux aussi porteurs. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est vraiment fort? Est-ce que quelqu'un peut vraiment dire qu'il sait? Non, dans notre faiblesse et dans notre ignorance, il nous est bon d'avoir ces appuis que Dieu nous donne dans les sacrements, et ainsi Dieu soulage et aide notre foi. Mais si les sacrements sont ajoutés à la parole pour la confirmer plus amplement, pour servir de sceau et pour soulager et aider notre foi, les sacrements comprennent deux réalités qui nous sont indiquées dans le paragraphe 2 de l'article 34, à savoir des signes extérieurs qui représentent une substance et une réalité intérieure. Il y a dans tout sacrement conjonction de deux choses. Il y a conjonction du signe et de la chose ou de la réalité signifiée. Il y a d'une part ce que nos yeux voient, principalement l'eau dans le baptême, le pain et le vin dans la scène, et il y a la substance et la réalité qui nous sont données en même temps et avec ces signes extérieurs, et c'est la substance et la réalité qui est en Jésus-Christ. Donc, nous nous trouvons là devant cette manière un peu scolastique, mais après tout assez claire, de parler des sacrements, et qui consiste à dire que dans les sacrements, il faut unir le signe et la chose signifiée sans les confondre, et il faut distinguer le signe et la chose signifiée sans les séparer. Et union sans confusion, et distinction sans séparation. C'est-à-dire que dans le sacrement, nous devons bien voir qu'il ne s'agit pas de signes extérieurs en vain ou de signes extérieurs nus. La foi reçoit avec les signes extérieurs et au moyen des signes extérieurs, substance et réalité, Jésus-Christ. Et nous n'avons ni le droit de confondre la chose signifiée et le signe, pas plus que nous n'avons le droit de les séparer. Non, il nous faut les prendre ensemble tout en les distinguant. Je le répète, par exemple, nous le verrons tout à l'heure plus en détail, pour le pain et le vin de la scène, le pain et le vin de la scène ne sont pas le corps et le sang de Jésus-Christ. Mais le pain et le vin de la scène sont inséparables du corps et du sang de Jésus-Christ. Et quand je reçois le pain et le vin de la scène, je reçois vraie communication du corps et du sang de Jésus-Christ. Il n'y a donc pas confusion entre le signe et la chose signifiée, mais il n'y a pas non plus séparation. Nous recevons ensemble ce que, cependant, nous sommes tenus de distinguer. Prenons maintenant l'article 35 sur le baptême. Nous reconnaissons seulement deux sacrements communs à toute l'Église, le baptême et la Sainte Cène. Je m'arrête d'abord sur cette simple phrase parce que je dirais que c'est à la fois quelque chose de net et c'est en même temps quelque chose d'ouvert. C'est quelque chose de net, à savoir qu'il n'y a que deux sacrements communs à toute l'Église, le baptême et la Sainte Cène. Mais en même temps, c'est ouvert, en ce sens que il peut ou il pourrait y avoir des sacrements non communs à toute l'Église. Et M. Buechner, il y a de très nombreuses années déjà, a posé la question dans une conférence très intéressante d'ailleurs, et qui était intitulée « Y a-t-il d'autres sacrements que le baptême et la Sainte Cène ?» Et tout dépend d'abord de ce qu'on appelle un sacrement. Évidemment, si dans la définition du sacrement on fait entrer une matière visible comme l'eau, le pain et le vin, on ne pourra pas considérer que l'absolution est un sacrement ou que le mariage est un sacrement. C'est certain. Mais la définition du sacrement n'est pas dans la Bible. C'est nous qui avons décidé, nous, je veux dire, nous les chrétiens qui avons décidé d'appeler certaines choses sacrements. Donc, de notre définition dépendra bien des choses. Et vous savez que Luther, par exemple, croyait et enseignait que l'absolution était un sacrement. Et Calvin n'était pas loin sur ce point de penser comme Luther. Le mariage, souvent on entend dire pour vous les protestants, le mariage n'est pas un sacrement. Tout dépend encore de ce qu'on veut dire. Ce que nous voulons dire quand nous disons que l'absolution ou le mariage ne sont pas des sacrements, c'est que ces actes ne comportent point de matière visible. Il n'y a pas dans l'absolution, il n'y a pas dans le mariage une matière visible correspondante à ce qu'est l'eau dans le baptême ou le pain et le vin dans la scène. Mais les réformateurs sont tous d'accord pour penser que quand l'absolution est donnée au nom de Dieu à un pécheur repentant, avec la parole humaine qui prononce l'absolution, il y a vraiment l'absolution venant de Dieu. Et il est certain que lorsque dans le culte, sans parler des cas de confession privée, mais dans le culte, lorsqu'après la confession des péchés, le pasteur dit, en prenant d'ailleurs la formule de Calvin, à tous ceux qui se repentent et qui croient, j'annonce ici le pardon de Dieu et j'atteste l'absolution de leurs péchés, tous ceux qui se repentent et qui croient reçoivent et doivent recevoir dans leur cœur, par la foi, l'assurance du pardon de leurs péchés, sans en douter. Alors, je vous dis ces choses pour montrer que, déjà dans la définition du mot sacrement, qui n'est pas, je le répète, un mot biblique, selon qu'on fait entrer ou non une matière visible, on peut considérer ou non l'absolution comme un sacrement. Et c'est la même chose, dirais-je, au sujet du mariage. Le mariage est un acte sacré, institué par Dieu lui-même. Nous ne l'appelons pas sacrement parce qu'il n'y a rien qui corresponde à l'eau dans le baptême, au pain et au vin dans la Sainte Seine, et que les alliances, le fameux échange des anneaux, ça c'est tout à fait d'institution humaine, et ça n'a aucun fondement dans l'Écriture sainte. Donc il n'y a pas de matière visible. Mais quand quelqu'un me dit, vous, protestants, vous ne croyez pas que le mariage soit un sacrement, je commence toujours par demander, qu'appelez-vous un sacrement ? Et si on me dit, ben, un sacrement, c'est un acte institué par Dieu et qui a quelque chose de définitif et d'absolu, alors je dis, oh, ben, si c'est ça que vous appelez un sacrement, le mariage est un sacrement. Tout dépend de la définition qu'on donne. Et nous allons le voir pour une autre réalité très importante dans la pensée réformée, en particulier dans l'institution chrétienne de Calvin, c'est au sujet de la consécration, de l'ordination des pasteurs. Il est certain que c'est un sacrement, mais ça n'est pas un sacrement commun à toute l'Église. Et c'est pourquoi, tout en croyant que la consécration pastorale est un acte qui apporte de soi et avec soi une grâce de Dieu, du fait qu'elle n'est pas donnée à toute l'Église, elle n'est pas appelée sacrement. Donc vous voyez, il y a deux raisons pour lesquelles la confession de foi dit qu'il n'y a que deux sacrements, le baptême et la Sainte Seine. C'est en premier lieu qu'il faut pour qu'il y ait sacrement une matière visible, ce qui n'existe pas dans le cas, je le répète, de l'absolution et du mariage. Et deuxièmement, il faut que ce soit commun à toute l'Église, ce qui n'existe pas dans le cas de l'imposition des mains, de la consécration ou de l'ordination pastorale. Donc, nous voyons que cette définition est nette, elle est juste. Il n'y a que deux sacrements communs à toute l'Église, étant donné ce qu'on appelle sacrement, comportant une matière visible, et étant donné que ça doit être commun à toute l'Église. Mais c'est une définition qui, une affirmation qui, tout en étant nette, laisse les portes ouvertes à un certain nombre de réflexions. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut pas dire trop vite, comme on le dit beaucoup trop souvent, que pour les protestants, il n'y a que deux sacrements. C'est vrai, mais c'est vrai à condition de bien définir les choses. Et il faut bien faire attention que, ceci dit, ceci posé, nous nous trouvons devant un certain nombre de réalités qui sont dans la Bible. D'ailleurs, au cours de l'histoire de l'Église, c'est très curieux. Très, très curieux. Au fond, il a fallu attendre la Réforme et le Concile de Trente qui a suivi la Réforme pour indiquer le nombre des sacrements. Et la réforme ayant défini les sacrements, a dit il y a deux sacrements. Prenant une autre définition, l'Église romaine, après la réforme, a dit il y a sept sacrements. Mais on en a compté cinq, on en a compté 30, on en a compté 8, on en a compté, on peut en compter des nombres impressionnants. Tout dépend évidemment de ce qu'on va appeler sacrement. Je vais vous donner un exemple. Parce que ni l'Église réformée, ni l'Église romaine n'appellent ça un sacrement. Et cependant, on pourrait très bien l'appeler sacrement. Tout dépend de la définition qu'on donne du sacrement. C'est la bénédiction. S'il y a un geste biblique qui compte dans la vie du peuple de Dieu, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, c'est la bénédiction. On pourrait poser la question quand Abraham a béni Isaac ou quand Isaac a béni Jacob en croyant d'ailleurs que c'était Ésaü, hein, est-ce que c'était un geste en l'air, en vain, ou bien est-ce qu'il y avait une grâce de Dieu? Et on pourrait même poser la question dans l'Église réformée, lorsque le pasteur, à la fin du culte, lève les bras pour donner la bénédiction, est-ce que c'est un geste en l'air, ou est-ce que c'est un geste qui a un sens? Si bien que on peut poser très bien la question que la bénédiction est un sacrement. Et d'ailleurs, à certains moments donnés de l'histoire de l'Église, on a compté la bénédiction comme un sacrement. J'attire donc aujourd'hui votre attention sur le fait que les questions de dire il y a deux sacrements, ou il y a sept sacrements, ou il y a quatre sacrements, ou tout ça, tout dépend de la définition qu'on va donner. Et c'est pourquoi, par exemple, dans l'institution chrétienne, c'est très frappant, Calvin dit il y a deux sacrements. Pourquoi? Parce qu'ils viennent donner une définition telle qu'il peut en effet n'y en avoir que deux. Mais ceci dit, on s'aperçoit que pour Calvin, il y a des tas d'autres choses qui sont des actions, j'allais dire, efficaces, ou qui sont des gestes apportant quelque chose avec eux. Il n'y a qu'à lire justement ce que dit Calvin de l'absolution, ce que dit Calvin de la bénédiction, ou ce que dit Calvin du mariage, ou ce que dit Calvin de la consécration pastorale, pour se rendre compte qu'il y a chose. Et nous, on a même inventé, dans notre langue protestante française, une expression d'ailleurs qui n'est pas tellement bonne, enfin, on parle des actes pastoraux. Les actes pastoraux. Qu'est-ce que c'est, ça, les actes pastoraux? Alors, je ne voudrais pas troubler vos esprits, mais je voudrais simplement vous dire que le mot sacrement n'est pas dans la Bible. Bon, c'est donc un mot dont se servent les hommes, les chrétiens, puisque ça n'est pas un mot tiré de la Bible. La Bible ne nous dit pas il y a deux sacrements, elle ne nous dit pas non plus qu'il y en a six, elle ne nous dit rien. Hein, la Bible nous parle d'un certain nombre de réalités. Mais je dirais, la Bible nous parle de la réalité de l'absolution, elle nous parle de la réalité du mariage, elle nous parle de la réalité de la bénédiction. Et elle nous parle aussi, bien sûr, de la réalité du baptême et de la Sainte Cène. La raison pour laquelle ces deux actes sont quand même à part, c'est que, justement, ils concernent l'ensemble de l'Église et qu'ils sont en correspondance avec les deux sacrements de l'Ancienne Alliance, les deux sacrements principaux de l'Ancienne Alliance, qui étaient, vous le savez, la Pâque et la circoncision. La circoncision et la Pâque. Et vous vous souvenez que nous avons déjà dit que dans l'Ancienne Alliance, les deux grands sacrements que sont la circoncision et la Pâque sont des sacrements sanglants. Le sang coule à la circoncision. Le sang coule lors de la célébration de la Pâque, tandis que maintenant, à partir du sacrifice où le sang de notre salut a été versé par Jésus-Christ, il n'y a plus de sang dans les sacrements de la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de sang dans le baptême, il n'y a plus de sang dans la Sainte Cène. Mais c'est à cause aussi de cette relation du baptême et de la Sainte Cène à la circoncision et à la Pâque que l'Église réformée ne garde le nom de sacrement et réserve le nom de sacrement qu'aux deux réalités du baptême et de la Sainte Cène. Mais je pense que bibliquement, il y a à parler d'autres actes hein, qui sont des actes comprenant un geste, une parole et une grâce qui accompagnent ce geste et cette parole. Et je crois donc que nous devons être heureux que notre confession de foi donne une définition qui dit « Nous reconnaissons seulement deux sacrements communs à toute l'Église, mais au fond ne dit pas brutalement « Il n'y a que deux sacrements, le baptême » en témoignage de notre adoption parce que nous sommes alors hantés au corps de Christ, greffés au corps de Christ, afin d'être lavés et nettoyés par son sang et puis renouvelés par son esprit pour vivre d'une vie sainte. Bien que nous ne recevions qu'une seule fois le baptême, nous affirmons aussi que les bienfaits qui nous y sont présentés s'étendent aux cours entiers de notre vie, en sorte que nous avons une attestation permanente que Jésus-Christ sera toujours notre justice et notre sanctification. Comme il y a l'eau dans le baptême, souvent on ne voit dans le baptême que le signe d'une purification, hein, d'un nettoiement. Mais en réalité, dans le Nouveau Testament, et la confession de foi le montre très bien, le baptême, c'est essentiellement le signe de notre union à Jésus-Christ. Nous sommes greffés par la foi sur Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Et le baptême est le sacrement qui atteste que nous sommes un par la grâce de Dieu avec Jésus-Christ. Nous sommes incorporés au corps de Christ, nous sommes greffés sur Christ, nous sommes unis à Christ, et dans ce sens, nous sommes baptisés dans la mort du Christ pour être renouvelés dans sa résurrection. Il y a donc le mystère de la mort et de la résurrection du Christ qui sont traduits par le baptême. Et il est certain qu'au point de vue de la symbolique du baptême, quand le baptême est donné par immersion, cette symbolique a quelque chose de plus complet, de plus total. Dans l'Église orthodoxe d'Orient, on plonge l'enfant dans l'eau, et vous savez que dans beaucoup d'églises baptistes, on procède de cette manière. Et il est sûr que ainsi, le mystère de notre union à Christ dans sa mort et dans sa résurrection est pleinement signifié. Chaque fois que je mène ma vie chrétienne, je dois vivre dans la mémoire du baptême. C'est important car, évidemment, le baptême est un sacrement qui n'est pas réitéré, qui ne se répète pas. On n'est baptisé qu'une fois. On n'est baptisé qu'une fois. Et c'est pourquoi, dans la vie chrétienne, la mémoire du baptême, le souvenir du baptême doit jouer son rôle. C'est ce que dit notre confession de foi, n'est-ce pas ? Les bienfaits qui nous y sont présentés s'étendent au cours entier de notre vie en sorte que nous avons une attestation permanente que Jésus-Christ sera toujours notre justice et notre sanctification. Quand je suis incliné au doute ou à l'éloignement, à l'apostasie, je dois me souvenir que je suis un avec Jésus-Christ et que le baptême, mon baptême l'a attesté. et que mon baptême, le souvenir de mon baptême m'exhorte à mourir à moi-même pour ressusciter, être renouvelé dans une vie sainte. Il y a à la fois dans le baptême attestation vraiment que Jésus-Christ est ma justice et ma sanctification, ma justification et ma sainteté. Et que c'est dans l'union à Jésus-Christ, dans la conformité à sa mort et à sa résurrection, que je puis mener ma vie chrétienne. Or, quoique le baptême soit un sacrement de foi et de pénitence, de repentance, néanmoins, parce que Dieu reçoit dans son Église les petits-enfants avec leurs parents, nous disons que par l'autorité de Jésus-Christ, les petits-enfants engendrés des fidèles doivent être baptisés. Vous comprenez bien qu'il m'est impossible, maintenant, d'aborder et de développer devant vous la question du baptême des enfants. Pourquoi ? C'est parce que cette question à elle seule pourrait remplir non seulement une, mais plusieurs soirées. Ce que nous notons simplement, c'est que pour l'Église réformée, pour les Églises réformées, les petits-enfants de parents croyants naissent dans l'alliance de grâce et peuvent et doivent recevoir le sacrement qui atteste la réalité de cette alliance. Évidemment, bien des discussions, dès le temps de la Réforme d'ailleurs, et de nos jours encore, et cela a traversé les siècles, bien des discussions ont eu lieu et ont lieu sur ce point précis du baptême des enfants. Car il est certain que le baptême est un sacrement de foi et de repentance. La confession de foi le dit. Et qu'au fond, en un certain sens, le baptême normal, c'est le baptême du croyant. Et nous nous trouvons donc devant les motifs de ce baptême d'enfant. Et le baptême des enfants dans l'Église réformée tient à ce que les enfants des croyants sont saints, comme dit l'apôtre Paul, que les enfants des croyants naissent dans l'alliance de grâce et que c'est comme sacrement de l'alliance de grâce que le baptême des enfants peut avoir lieu. Autrement dit, le baptême des enfants ne peut reposer que sur la certitude d'une alliance de grâce qui va et court de génération en génération. Là où l'on ne croit pas à la réalité de cette alliance de grâce, on ne peut pas baptiser les enfants. Et en tout cas, les raisons, si vous voulez, pour lesquelles un réformé baptise ou fait baptiser des enfants ne peuvent être les mêmes que les raisons qui sont alléguées dans l'Église romaine. Et ce ne sont pas les mêmes motifs qui sont avancés dans les Églises réformées et dans l'Église romaine. La raison de l'Église romaine, c'est que le baptême a une efficacité de soi, que l'enfant qui meurt sans baptême est damné, même si le lieu de sa damnation est un lieu mitigé comme les limbes, et donc qu'il y va du salut de l'enfant qu'il soit baptisé. C'est donc une nécessité de salut qui fait que l'Église romaine baptise les enfants et accepte même que les enfants soient baptisés n'importe où par n'importe qui, puisque même selon la doctrine de l'Église romaine, un athée peut baptiser un enfant. Et les motifs de l'Église réformée, la réforme, qui tiennent à l'alliance de grâce et au fait que les enfants des croyants naissent dans cette alliance. Donc vous voyez que ce sont des motifs très différents qui aboutissent à des pratiques apparemment semblables. J'aborde maintenant la Sainte Cène. Nous confessons que la Sainte Cène nous apporte le témoignage de notre unité avec Jésus-Christ. En effet, Christ n'est pas seulement mort et ressuscité une seule fois pour nous, mais il nous repaît et nourrit vraiment aussi de sa chair et de son sang, afin que nous soyons un avec lui et que sa vie nous soit communiquée. Or, bien qu'il soit au ciel, jusqu'à ce qu'il en revienne pour juger le monde, nous croyons toutefois qu'il nous nourrit et vivifie par l'action secrète et incompréhensible de son esprit, de la substance de son corps et de son sang. Nous affirmons bien que cela se fait spirituellement, non pas pour substituer à l'effet et à la vraie réalité de la scène imagination ou pensée, mais parce que ce mystère dépasse par sa grandeur notre humaine capacité et tout l'ordre de la nature, bref, parce qu'il est céleste, nous estimons qu'il ne peut être saisi que par la foi. Cet article est très beau et c'est un article qui nous montre à quel point, au temps de la Réforme, nos pères croyaient à la présence réelle du Christ dans le sacrement de la Sainte Cène. Je dis bien à la présence réelle de Jésus-Christ dans la Sainte Cène. Le tout, c'est de s'entendre sur ce que l'on appelle présence réelle de Jésus-Christ. Quand la Sainte Cène est célébrée selon l'institution de Jésus-Christ, et quand ceux qui s'en approchent s'approchent avec foi, la substance du corps et du sang de Jésus-Christ leur est communiquée. Il y a là, évidemment, comme le dit notre confession de foi, un mystère qui dépasse par sa grandeur notre humaine capacité et tout l'ordre de la nature. En effet, Christ est au ciel, nous sommes sur la terre. Comment peut-il se faire que nous soyons un avec lui, et comment la substance de son corps et de son sang peut être vraiment notre nourriture et notre breuvage spirituel. Il n'y a aucune explication à tenter. C'est malheureusement ce qu'on a très souvent essayé de faire. Une explication a été celle du Moyen-Âge, avec la doctrine romaine de la transsubstantiation, mais cette doctrine a des conséquences tellement graves et elle s'avère sur le plan de la pensée religieuse, théologique et philosophique tellement intenable qu'à l'heure actuelle d'ailleurs bien des catholiques en sont gênés. La transsubstantiation, vous le savez, enseigne que lors de la célébration eucharistique, la substance du corps, du pain et du vin est tout entière changée en la substance du corps et du sang de Jésus-Christ. On arrive à des conséquences effroyables parce que Jésus-Christ, étant ainsi, si j'ose dire, chosifié, on se trouve devant toutes sortes de possibilités aberrantes. On arrive à l'adoration du pain et du vin, puisque ce n'est plus le pain et le vin, mais le corps et le sang de Jésus-Christ. On arrive à ne plus communier, car bien souvent on ne communie pas, mais on adore le corps et le sang de Jésus-Christ ainsi chosifiés. Et on arrive aussi à toutes sortes de conséquences terribles, car à partir du moment où le corps et le sang de Jésus-Christ sont comme placés entre les mains des hommes. Les hommes peuvent faire du corps et du sang de Jésus-Christ exactement tout ce qu'ils veulent. Et quand je dis tout ce qu'ils veulent, je ne saurais nommer ici toutes les abominations auxquelles on a abouti. Je ne fais que mentionner ici les messes noires qui ont eu une vogue invraisemblable à la fin du siècle dernier et qui, hélas, continuent encore ça et là. Et je dirais, il y a quelque chose d'effrayant à penser qu'on a promulgué aussi une doctrine selon laquelle l'homme, au fond, ne peut plus être sûr de rien. Car, en effet, la transsubstantiation enseigne que toutes les apparences du pain et du vin demeurent. Mais les apparences, ça ne veut pas dire seulement ce qui apparaît. Ça veut dire que le goût, au goût, au toucher, à la vue, c'est vraiment du pain et du vin. Et cependant, ça n'en est plus, ça n'en est pas. Je dirais, il y a là aussi quelque chose qui fait mentir en quelque sorte Dieu lui-même. Et quand je dis qu'à partir du moment où l'on croit à la transsubstantiation, on peut tout simplement douter de tout, c'est parce qu'en effet, on n'est plus sûr de rien. On n'est plus sûr quand on a du pain et du vin que ce n'est pas le corps et le sang de Jésus-Christ, et on n'est pas sûr non plus de l'inverse. On ne sait plus où l'on en est, littéralement. Et je dirais, il y a dans cette chosification du corps et du sang du Christ quelque chose d'aberrant. Mais je dirais que on a cherché toutes sortes d'autres explications. À un moment donné, vous le savez, en tout cas, les luthériens ont enseigné une doctrine de la consubstantiation. Si la consubstantiation veut dire qu'avec le pain et le vin, on reçoit la communion au corps et au sang de Jésus-Christ, là, tout le monde peut être d'accord. Mais si l'on veut dire que la substance du corps et du sang de Jésus-Christ se conjoignent au pain et au vin, on en est à une approche de la doctrine de la transsubstantiation. Et je crois que l'attitude réformée est l'attitude qu'il nous faut tenir parce qu'elle respecte pleinement le mystère. Comment cela se fait? Je n'en sais rien. Cela dépasse la compréhension humaine. Cela dépasse l'ordre de la nature. Mais, sur la parole du Christ, je sais que quand j'approche de la table sainte, que je prends ce pain, que je prends ce vin, j'ai communion réelle avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ me nourrit vraiment de son corps et de son sang. Et vous avez vu qu'il est bien noté que spirituellement, ne veut pas du tout faire évanouir la réalité en imagination ou pensée. Spirituellement, ça veut dire que cela se fait par le Saint-Esprit. Si, sur la terre, prenant le pain et le vin de la scène, je suis en communion réelle avec Jésus-Christ, et si je me nourris vraiment du corps et du sang de Jésus-Christ, je ne sais pas comment cela se fait, je n'ai rien à proposer comme explication, mais je sais que c'est ce que Dieu fait par son Saint-Esprit. Et je m'approche de ce mystère avec crainte et tremblement. Je pense d'ailleurs, quand on dit les choses comme cela à des catholiques romains ou à des luthériens ou à des orthodoxes, il y a une chose qui est stupéfiante, mais moi j'en ai fait souvent l'expérience, c'est qu'ils sont d'accord. Ce qui prouve que toutes les fantaisies que les hommes imaginent pour essayer d'expliciter le mystère sont des obstacles plutôt que des approches. Et je crois qu'il faut s'en tenir à la parole de Jésus-Christ. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Quand je prends le pain et le vin de la scène, je communie au corps et au sang de Jésus-Christ. Je suis sur la terre, Jésus-Christ est au ciel, Jésus-Christ cependant me nourrit de son corps et de son sang.
Et cela se fait spirituellement, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui l'accomplit. Et ça dépasse toute ma capacité humaine, et cela dépasse même, dit notre confession de foi, l'ordre de la nature. Et c'est pourquoi je dis que cet article est extrêmement bon. Chaque fois d'ailleurs que je l'ai fait lire à des orthodoxes d'Orient, à des catholiques romains, ils n'ont pu s'empêcher de voir là quelque chose qui rend compte parfaitement de l'enseignement de la Sainte Écriture. Et je crois, je suis de ceux qui croient, que si l'Église de Jésus-Christ doit s'unir un jour en ce qui concerne le sacrement de l'Eucharistie, c'est sinon sur ce texte, du moins sur un texte qui sera bien semblable à celui-là, qu'elle le fera. Parce que on tient les deux bouts de la chaîne, il y a union du signe et de la chose signifiée, sans confusion entre le signe et la chose signifiée, alors que la transsubstantiation est justement une confusion, et il n'y a pas non plus séparation, comme le voulaient certains protestants rationalistes du XVIIIe ou du XIXe siècle, pour qui la Sainte Cène c'était simplement un geste vaguement symbolique, mais qui n'était pas réellement le mystère de la communion au corps et au sang de Jésus-Christ. Et là, je dirais qu'on séparait le signe et la chose signifiée. Si vous voulez, il y a un certain rationalisme protestant qui sépare le signe et la chose, le signe et la chose signifiée. Il y a un certain chosisme qui identifie le signe et la chose signifiée, et il faut rester en conjoignant le signe et la chose signifiée sans cependant les confondre. Nous croyons, nous l'avons déjà dit, que dans la scène comme au baptême, Dieu nous donne réellement et effectivement ce qu'il y représente. C'est pourquoi nous joignons au signe la vraie possession et la jouissance de ce qui nous y est présenté. Ainsi, tous ceux qui apportent à la table sacrée du Christ une pure foi reçoivent vraiment comme un vase l'eau qui l'emplit ce que les signes y attestent. C'est que le corps et le sang de Jésus-Christ ne servent pas moins de nourriture et de breuvage à notre âme que le pain et le vin à notre corps. Nous affirmons ainsi, d'une part, que l'eau du baptême, tout en restant un élément caduque, ne laisse pas de nous attester avec vérité la purification intérieure de notre âme par le sang de Jésus-Christ et par l'efficace de son esprit, d'autre part, que le pain et le vin qui nous sont donnés dans la scène nous servent vraiment de nourriture spirituelle, car il nous montre comme à l'œil nu que la chair de Jésus-Christ est notre nourriture et son sang notre breuvage. Nous désapprouvons donc les esprits chimériques et les sacramentaires qui ne veulent recevoir ces signes et ces marques, vu que Jésus-Christ déclare « Ceci est mon corps et cette coupe est mon sang ». Les esprits chimériques et sacramentaires, faites attention, il y a quelquefois des mots en français qui ont un sens différent de celui qu'on attend. Les sacramentaires ne sont pas les gens qui pratiquent les sacrements, mais les gens, au contraire, qui ne voulaient pas les pratiquer. C'est un peu curieux, j'avoue, mais dans la langue du XVIe siècle, c'était comme ça. Et les esprits chimériques et les sacramentaires, c'était ces protestants rationalistes d'avant le temps, si j'ose dire, qui considéraient que du moment qu'il y avait la parole de Dieu, qu'il y avait la foi, on n'avait pas besoin des sacrements. Eh bien, notre confession de foi des Églises réformées en France est dirigée contre ces esprits chimériques et qui désapprouvent ou s'éloignent des sacrements. Et je pense que nous devons, pour terminer, que je dois, pour terminer, faire une remarque. C'est une remarque d'ordre historique, mais qui touche très profondément à notre vie mystique, à notre vie chrétienne profonde. Et cette remarque est la suivante. Calvin a dû se battre comme un lion, mais comme un lion qui, sur ce point, a été battu, contre les Genevois, qui n'ont pas voulu suivre l'enseignement qui cependant émane du Nouveau Testament, à savoir qu'il ne peut y avoir de culte chrétien véritable au jour du Seigneur sans la célébration de la Sainte Cène. Et c'est un grand malheur dans l'histoire du protestantisme réformé que l'opposition qu'a rencontré Calvin et de laquelle il n'a pu triompher et qui a limité les Saintes Cènes à quelques cultes dans l'année. On en est arrivé à avoir la Sainte Cène à Noël, à Pâques, à la Pentecôte, et chose étrange, mais enfin c'est comme ça, bien que ce ne soit pas une fête venant de l'Écriture, la fête de la Réformation, 4 fois par an. 4 fois par an. Il faut reconnaître que chaque fois que nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons que l'une des caractéristiques de l'Église apostolique, ça a été la fraction du pain. Chaque fois qu'il est question d'un rassemblement des chrétiens au jour du Seigneur, il y a toujours la Sainte Cène. Le culte chrétien, si on lui ôte la Sainte Cène, on lui ôte une partie essentielle. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que l'un des plus grands bienfaits que nous devons au ministère de M. Bugner dans le protestantisme français, ça a été de rétablir, il était en cela le successeur d'Eugène Mercier, de rétablir l'usage de la Sainte Cène. Et je vous dirai que je suis heureux d'être dans une paroisse où la Sainte Cène, après avoir été célébrée tous les mois, puis après avoir été célébrée tous les 15 jours, est célébrée toutes les semaines. Et je considère que la Sainte Cène fait partie intégrante du culte chrétien. C'est très important parce que c'est la pensée profonde de la réforme. Sur Luther, il n'y a point de contestation possible, et en tout cas pour Calvin, il n'y a pas non plus de contestation possible parce qu'il a lutté pour ça. Il a lutté pour ça. Il faut dire que ses adversaires avaient des excuses. Parce qu'il faut reconnaître que la messe, ou plutôt les messes, et les plusieurs messes à la fois, et les plusieurs messes dans le même jour, comme il en existait à l'époque de la Réforme, n'étaient pas faites pour encourager dans un usage fréquent de la Sainte Cène. Et je dirais que c'est une sorte de réaction anticatholique qui a animé un grand nombre de protestants, et en particulier les protestants genevois sur ce point. Mais je dirais, nous n'avons pas à nous occuper des catholiques, surtout quand il s'agit de faire systématiquement le contraire de ce qu'ils font, parce qu'on aboutirait à la limite à ne plus croire en Dieu, mais nous sommes tenus de voir ce que l'Écriture nous dit, de ce que les apôtres nous enseignent. Et je dirais que c'est ça qui doit compter. Souvent, nous avons des réflexes anticatholiques, du moment que les catholiques le font, on ne va pas le faire. Mais je dirais que ce n'est pas du tout une méthode. Ce n'est pas du tout une méthode dans aucun genre. Nous devons nous appliquer, au contraire, à suivre ce que nous dit la Bible. Or, sur le point de la Sainte Cène, il y a une chose qui est frappante, c'est que nous voyons très bien dans les évangiles, après la résurrection de Jésus, et nous voyons très bien dans le livre des Actes, que la fraction du pain est au cœur du jour du Seigneur. Je dirais même que le jour du Seigneur s'est établi autour de ça. C'était très important, et c'est d'ailleurs ce qui fait que le jour du Seigneur, à savoir le jour de la résurrection de Jésus, le dimanche, a pris la place du sabbat juif. Et alors je dirais, il est normal que nous lâchions les cérémonies de l'ancienne dispensation, Nous n'avons pas à tenir au sabbat du samedi, pas plus que nous n'avons à tenir à l'agneau pascal, pas plus que nous n'avons à tenir à la circoncision. Toutes ces choses-là sont passées. Mais nous devons entrer dans la nouvelle dispensation et entrer dans l'ère de l'Église avec toute la plénitude de ce qui prend place dans le Nouveau Testament. Et le baptême, la Sainte Cène, doit avoir leur place dans la vie chrétienne. Et justement, le sacrement de la Sainte Cène, je dirais, c'est le sacrement dont le chrétien a besoin sans cesse. Puisque c'est le sacrement de la nourriture du corps et du sang de Jésus-Christ.